question concerne les évolutions de l'Unimark Autorité 3e édition sous l'influence de FRAD. Alors Françoise, vous avez déjà commencé à entendre parler de FRAD. Donc on verra les changements qui sont intervenus depuis la publication du manuel Unimark enrichi de 2001 jusqu'à maintenant la publication du 3e édition du format Unimark Autorité de 2009. Donc les changements qui ont eu lieu et qui ont été discutés par le comité permanent Unimark entre 2006 et 2009. Donc le panorama, vous l'avez vu, donc l'Unimark, là on se situe au niveau Unimark Autorité. Il y a une mise en cohérence avec Unimark Bibliographique 3e édition, avec la 2e édition des Guidelines for Authority and Reference Records. C'est des documents de référence sur les autorités, enfin sur les notices d'autorité, de données d'autorité de l'IFLA, les GAR. Je l'ai, en français, le sigle de Principes internationaux de catalogage ZEVPAFE CIP, défini en 2009. Et mis en cohérence avec FRAD plus d'autres évolutions, dont je n'en parlerai pas. Et là, je me concentrerai sur les évolutions d'Unimark Autorité sous l'influence de FRAD, qui a été publié en 2009. Quelques points de repère des FRBR jusqu'à l'Unimark A. Donc FRBR, le rapport final a été publié en 98. En 99, donc tout de suite après l'IFLA, entame un travail à travers un groupe de travail s'appelant FRANAR, Functional Requirements and Numbering Authority Records, pour réfléchir sur un modèle conceptuel sur les autorités. Et en 2009, donc de 1999 à 2009, vous voyez le temps que ça prend, 10 ans, la publication du texte final du modèle sous le nom FRAD, donc Functional Requirements for Authority Data. Et pendant ce temps, le comité permanent Unimark n'a pas resté inactif, il a accompagné quelque part tout ce travail d'élaboration de ce modèle et a travaillé pour refléter les changements éventuels et effectifs sur le format Unimark Autorité. Alors, quelques petits rappels sur FRBR et FRAD, qui sont des modèles conceptuels dont Françoise, elle vous en a parlé. Donc, c'est des modèles qui, en fait, ne sont pas nés du néant. Ils s'appuient quand même sur la tradition catalographique. Ils analysent, d'une part, les notices bibliographiques pour les FRBR et de l'autre côté, toutes les données d'autorité pour FRAD. Ils essaient d'expliciter les relations entre tout ce qui est produit d'une activité intellectuelle ou artistique, les contenus, leur matérialisation dans les supports, les différentes versions, différentes langues, les interprétations à travers tel orchestre, etc. Et pour le FRAD, tous les acteurs qui interviennent à différents niveaux et moments du processus de la conception des contenus intellectuels jusqu'à leur diffusion. La méthode qui a été appliquée pour l'élaboration de ces modèles, c'était la méthode entité-relation, qui était une méthode appliquée pour conception-réalisation des bases de données dans les années 90. On n'est pas encore dans les technologies du web d'aujourd'hui et du web sémantique. Donc, on définit des entités. Entité pour FRBR, œuvre, expression, manifestation ou bien personne physique, collectivité, etc. Bon, on les définit comme des entités. Et on les analyse. On définit leurs caractéristiques. Ces caractéristiques deviennent des attributs. Donc, les entités, chaque entité peut avoir plusieurs caractéristiques. On analyse les relations qu'il peut avoir entre ces entités. Quelle est la relation entre une œuvre et une expression, une œuvre et une manifestation, une personne physique et une œuvre, en tant qu'auteur, en tant que traducteur, etc., pour une expression. Donc on définit, on analyse tout ça et on les met en relation. Donc ça, c'est les grands principes de ces modèles conceptuels. Donc le modèle Ferber, Frozen-Razel vous en a parlé. Ici, je le rappelle juste pour avoir la continuité pour Frad. Hein. Donc je m'en attarderai pas plus. Hein. Bon, le schéma, il est un tout petit peu plus différent, mais c'est tout à fait les mêmes entités et les mêmes types de relations. Hein. J'en dis bien type, hein, parce qu'en réalité, c'est beaucoup plus détaillé. Donc, sauf que les Ferber, qu'est-ce qu'ils traitent ? Ils traitent que des données bibliographiques, donc des notices bibliographiques. Le R de fin, c'est record, c'est notice. Et ils traitent aussi des points d'accès dans les notices bibliographiques, mais il ne va pas plus loin que les points d'accès. Par exemple, Ferber, il traitera de l'entité personne ou collectivité et même titre d'une œuvre, etc., mais que les éléments qu'on retrouvera dans les points d'accès dans une notice bibliographique. Il ne va pas aller analyser qu'est-ce que c'est une personne, en fait, qu'est-ce que c'est une collectivité. Un titre, eh ben, un titre représente toute une œuvre avec une vie, etc. Donc, Ferber n'abordera pas cet aspect-là. Donc, pour compléter ce paysage, IFLA s'est penché sur la modélisation des autorités à travers le FRAD, qui traite donc ces données d'autorité, et on a évolué dans les premières versions, on parlait de FRAR avec le R comme records, hein, les notices, jusqu'à la dernière publication, la publication finale, on parle de données FRAD, Functional Requirements for Authority Data. Hein, vous avez la notion de données. Les objectifs, c'était d'identifier et d'analyser de façon détaillée toutes les entités, lesquelles ? Celles qui sont représentées par les points d'accès dans les notices bibliographiques, mais d'aller plus loin, hein, voir leurs caractéristiques, et ils visent les données et pas du tout l'organisation dans les notices d'autorité. Alors, maintenant, le schéma de FRAD. Là aussi, j'ai essayé de synthétiser. En haut, alors je reviens juste un petit peu en arrière. Là, on avait Ferber, n'est-ce pas ? Vous voyez les entités, œuvres, expressions, manifestations, items, donc le document, hein, ce qu'on a en main, un exemplaire, personne, collectivité, et puis concept, un objet, un événement et un lieu. Ça fait 10 en tout. Je reviens sur FRAD. On retrouve exactement les mêmes entités, plus une autre qui est famille, hein, qui est rajoutée. Mais vous allez me dire, dans une marque autorité, on l'a bien, famille. Voyons, j'ai dit au départ que ces modèles s'appuient quand même sur la tradition catalographique, parce qu'ils conceptualisent le monde de l'information bibliographique. Alors, ces entités, FRAD, il les définit comme des entités bibliographiques, point très important. Prenons le cas, par exemple, d'une personne qui a, entre guillemets, plusieurs vies, hein, ou plusieurs lignes d'activité sous des noms différents. Roman Gary, Roman Katchev, Émile Ajar, etc., etc. Hein. Ou bien, ça va être pareil pour Boris Vian et tout, à travers tous ces différents noms, ils ont des identités publiques différentes que dans nos données bibliographiques et d'autorité, on en rend bien compte. Hein. On crée des notices d'autorité différentes, n'est-ce pas ? Donc, c'est pour ça que on parle bien des entités bibliographiques. Pour Roman Katchev et Émile Ajar, Roman Gary, on peut s'attendre très bien d'avoir 3 notices d'autorité, donc 3 entités bibliographiques pour une personne que les Anglais, les anglophones, ils disent bien « natural person », hein, pour parler de la personne physique. Alors que dans le monde bibliographique, il peut se trouver démultiplié. Hein. Alors, toutes ces entités, je ne vais pas me pencher en détail sur les relations, mais j'en ai mis des flèches un peu partout. Elles ont des relations entre elles. De la même manière que les entités Ferber avaient des relations entre elles. Une œuvre avec une personne avec d'autres personnes, une personne avec elle-même, enfin, c'est-à-dire deux identités publiques pour la même personne, etc., etc. Je vais me pencher sur la partie qui est propre à Frad, qui est cette partie-là. Donc, toutes ces entités bibliographiques dans Frad considèrent qu'ils sont connus dans le monde bibliographique par des noms. Quand on dit Johnny Hallyday, Romain Gary, etc., eh bien, on n'appelle pas les entités par Gary, virgule, espace, Romain, n'est-ce pas, hein? Dollar F, les dates, etc. Hein? On ne dit pas comme ça, mais on dit Romain Gary, Françoise Lerèche, etc., sous une forme, sous une chaîne de caractères, n'est-ce pas? Donc, c'est des noms, mais on peut avoir des identifiants. Un numéro de sécurité sociale, c'est un identifiant pour une personne. Alors, ces noms et ces identifiants, c'est ceux-là qui servent de base pour la construction des points d'accès. Et en fait, dans les notices bibliographiques, on a bien des points d'accès, même pour les notices d'autorité, quand on lit les notices d'autorité les unes avec les autres. N'est-ce pas? On les lit à travers les points d'accès. Et dans les catalogues, on accède, ce n'est pas pour rien qu'elles s'appellent des points d'accès, on accède aux informations bibliographiques à travers ces points d'accès qui sont des constructions artificielles, n'est-ce pas, hein, avec espace, virgule, les dates entre parenthèses, etc., etc. Donc, c'est des constructions contrôlées. Ces constructions contrôlées, eh bien, on ne les contrôle pas, chacun ne le fait pas à sa manière, mais il y a des règles. Donc, ces points d'accès sont gérés par des règles. Ces règles sont appliquées par une agence, par celle qui catalogue, et les agences sont celles-là qui créent finalement les points d'accès contrôlés. Donc voilà à peu près le schéma général du modèle FRAD. Encore une fois, les entités bibliographiques, chacune de ces entités, elle est connue par un ou plusieurs noms, hein, les variantes de noms, les variantes linguistiques, etc. Ces noms ou des identifiants servent de base pour la création des points d'accès. Les points d'accès sont gérés par des règles, elles sont créées par les agences, et les règles sont appliquées par les agences, n'est-ce pas? Ou les agences appliquent des règles. On espère bien, hein, bien sûr. Alors, l'influence sur Unimark A. Il est dit dès l'introduction du Unimark Autorité 3e édition qu'il tient compte également des attributs des entités et des relations entre les entités telles que précisées dans les spécifications fonctionnelles pour les données d'autorité modèle conceptuel, le nom anglais. C'est moi qui l'ai traduit comme ça, peut-être quand on le traduira, on traduira plus comme ça. Peut-être on va dire spécification requise pour les données d'autorité, mais il n'y a pas encore la traduction officielle de FRAD en français. C'est en cours de réalisation. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Donc les membres de PUC, hein, pendant toutes ces années, de 2006 à 2009, qu'est-ce qu'ils ont fait pour rendre compte de FRAD dans le Unimark A? Donc il y a intégration des concepts de base, hein, le schéma, hein, dont je vous ai parlé. Ça a entraîné de la modification de terminologie, une révision de la sémantique, c'est-à-dire le sens des codes, donc des étiquettes, des zones, des sous-zones, etc., d'ajout d'éléments, zone, sous-zone, position, valeur, indicateurs, etc. Et puis, il y a des tas de paragraphes explicatifs. Donc, pour rendre compte le parallèle, j'ai essayé de jouer sur les codes couleurs. Tout ce qui est en gris, c'est du FRAD. Tout ce qui est en rouge, vous avez bien compris, c'est de l'Unimark. Le FRAD, il parle de entité bibliographique, hein, donc par exemple, on peut avoir une entité bibliographique personne. Pour cette entité, on va faire des données d'autorité. Ces données d'autorité sont dans une notice, sont encapsulées dans une notice d'autorité de type Unimark. verra les modifications de terminologie quelque part dès la définition des types d'entités. Hein, dans le label position 9 d'Unimark, on ne dit plus nom de personne, là c'était la deuxième édition, on ne dit plus nom de personne, on dit entité, nom de personne. Et encore, on trouvait avec Françoise qu'on aurait pu faire un effort et dire entité personne. Nom de collectivité, entité collectivité, on ne dit plus titre uniforme, on dit titre préféré, plus de rubrique de classement, mais titre collectif préféré. Alors là, auteur-titre, nom-titre. Parce que qui dit auteur-titre, ça veut dire que on se place tout de suite dans la logique de la fonction qu'une personne connue par un nom a eue par rapport à une œuvre, à savoir un titre. Donc il est auteur, on le cantonne dans la fonction de l'auteur. Alors que là, maintenant, on dit tout simplement un nom. Avec un titre, un nom qui ça peut être d'une personne ou d'une collectivité. On peut avoir une œuvre réalisée par une collectivité. Nom, titre collectif, pareil. Alors, en termes d'entité, dans l'Unimark, on traite bien de personnes, de familles, de collectivités, d'œuvres de façon induite. Des titres, hein, pour nous c'est des titres d'œuvres. Eh bien, on verra que dans la zone 154, la zone de données codées titres, le dollar $R, qui est donnée générale de traitement du titre, il y a l'ajout d'une position qui définit le type d'entité, le code du type d'entité. Et il est dit que cette position indique le type de l'entité quand le point d'accès est un point d'accès autorisé titre pour une œuvre ou pour une expression. C'est la première fois que dans Unimark Autorité on parle de œuvre et expression. Et ça vient de FRBR, hein, vous avez vu. Hein. Donc il y a trois valeurs. Œuvre, expression et non applicable lorsque il ne s'agit pas d'une œuvre ou d'une expression, par exemple un objet, l'indexation matière, etc. Ben, on ne peut pas dire que c'est une œuvre, hein. Obligatoirement. Exemple, j'ai eu du mal à trouver des exemples, à vrai dire, parce qu'on ne fait plus pas encore de vraiment des notices d'expression, mais je l'ai tiré cet exemple de Unimark Autorité 3e édition. Donc vous voyez, c'est un titre. La version en croate de l'Odyssée, de Homer, Ulix. Là, font croire sur parole, j'ai traduit, j'ai cherché, je ne connais pas le croate, mais j'ai cherché sur les dictionnaires. Ça veut dire version en croate, et vous avez ce petit B ici, le B de l'expression. Donc, ça veut dire qu'on a un point d'accès autorisé dans une notice d'autorité pour une expression. En termes de terminologie, on en a suffisamment parlé de cette notion de point d'accès, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Unimark A, on parlait de vedette et vedette uniforme, maintenant on parle de point d'accès d'autorisé, ce qui se trouve dans l'appellation de chacun des blocs, bloc des points d'accès autorisés, rejeté, point d'accès associé, bloc des points d'accès autorisés dans une autre langue et écriture. Je reviens sur FRAD. Donc, au cœur du modèle, on avait les entités bibliographiques, je les ai mis toutes ensemble, sont connues par des noms qui, ces noms, constituent la base pour les points d'accès contrôlés. Alors, j'ai dit au départ que les modèles, aussi bien FRBR que FRAD, définissent les entités et des attributs, à savoir des caractéristiques pour chacune de ces entités. Donc ça fait des petits pavés quand même les textes des modèles eux-mêmes. Donc pour l'entité bibliographique personne, j'ai pris un exemple, je ne pouvais pas faire la liste de toutes les entités. Le modèle FRAD, il définit comme caractéristiques les dates de naissance, de mort, d'activité, etc., les lieux, le sexe, l'affiliation à un groupe, ses professions, activités ou autres informations bibliographiques, la langue utilisée par la personne, c'est-à-dire tout ce qu'il a défini en tant que personne dans un univers bibliographique, bien entendu, hein, parce qu'il y a d'autres, on ne va pas prendre la taille de la personne, la couleur des yeux, etc., hein, pas jusque-là. Mais dans l'univers bibliographique, on a besoin quand même de ce type d'informations pour identifier cette entité. Le nom, eh ben, qu'est-ce que c'est un nom ? C'est avant tout simplement une chaîne de caractères. Cette chaîne de caractères, il peut avoir un type, ça peut être une chaîne de caractères qui définit une personne, une collectivité, une œuvre, un titre, etc. C'est le type de nom. Cette chaîne de caractères, selon précis, il peut avoir des dates d'utilisation. Une personne qui change de nom à partir d'un moment, eh bien, il peut avoir être appelé par un nom dans une période donnée. La langue du nom, ça s'exprime dans une langue, un nom, l'écriture du nom et le schéma de translittération. Donc, c'est des caractéristiques plus ou moins d'une chaîne de caractères qui va être utilisée pour appeler une de ces entités bibliographiques. Et le point d'accès, eh bien, le point d'accès qui va utiliser, bien entendu, ce nom, pour le point d'accès contrôlé, le modèle FRAD, il prévoit comme attribut, donc comme caractéristique, l'usage prévu, comme forme autorisée ou rejetée dans les notices d'autorité. La racine du point d'accès, on en parle dans l'IMARC autorité de la racine du point d'accès comme élément composant du point d'accès, la langue et écriture de la racine du point d'accès, le schéma de translittération de la racine du point d'accès, la langue et l'écriture de catalogage, parce qu'un point d'accès, eh ben ma foi, il est composé de la racine qui est dans une langue, elle peut être dans différentes langues, mais tout ce qui est qualificatif, on les met dans la langue du catalogage. Donc l'ensemble du point d'accès contrôlé, eh bien, il a des éléments qui relèvent de la langue même du point d'accès. Hein, quand on dit, quand on a des noms en russe, en écriture cyrillique par exemple, maintenant quand on gère les multi-écritures dans nos bases de données, eh bien on aura l'écriture de la racine de point d'accès. Sauf que quand on parlera de ses fonctions, les saints, écrivains, etc., on le dira dans la langue du catalogage. Sauf que ça fait partie du point d'accès contrôlé. Un petit exemple. Donc l'entité bibliographique personne qui est connue par des noms. J'ai pris le cas d'Eschyle. Pourquoi ? À cause des différentes variantes linguistiques et les formes en caractère en grec, en écriture non latine. Donc c'est des noms. Ok ? En différentes langues, écritures, etc. Et ce sont ces noms qui vont faire partie du point d'accès contrôlé. Le point d'accès contrôlé, les points d'accès contrôlés, vont être constitués du nom plus tous les éléments qui donnent des indications sur la langue, l'écriture, translittération, et puis d'autres éléments additionnels comme les dates, les qualificatifs, etc. Je reviens sur ce schéma. Le point d'accès contrôlé, c'est l'élément névralgique du modèle. Parce qu'il est à la fois porteur de l'identité de l'entité en question, que ce soit personne, collectivité, famille, œuvre, manifestation, item, etc. Et puis c'est lui qui est le vecteur des relations, parce que c'est lui qu'on va trouver partout, aussi bien dans les points d'accès contrôlés les zones 2XX, que dans les zones qui servent à établir les relations, les 5XX par exemple. Le point d'accès contrôlé, eh bien, elle a des attributs. Hein, je les avais listés en petit au départ. Hein. Donc, il y a des attributs qui définissent la composition, donc la racine et les additions, et puis tous les autres attributs, donc les caractéristiques, l'usage prévu, langue écriture, un schéma de translittération, etc. Les modèles conceptuels, aussi bien Ferber que Frad, définissent des relations entre les éléments. Donc, les points d'accès contrôlés ont des relations entre elles. De quel type ? Langue parallèle, on peut avoir dans la même notice. Si on a une notice pour Bibliothèque et Archives du Canada et c'est quoi la forme anglaise National, je sais plus, National Library and Archives, ce sont deux formes parallèles en deux langues différentes et ces deux formes sont en relation de type. L'une des formes est de type est en relation à avec l'autre de type langue parallèle. Hein. Pareil, quand on aura des vedettes, enfin, excusez-moi, voilà, j'ai dit vedette, il fallait que je dise point d'accès contrôlé. Quand on a dans la même notice deux points d'accès contrôlés pour un auteur russe, par exemple, une entité personne russe, on va avoir Maxime Gorky, le point d'accès contrôlé en translittéré ou bien en français et l'autre en caractère cyrillique, ces deux points d'accès sont en relation l'une avec l'autre, de type langue parallèle, mais aussi en écriture alternative. Et puis, on peut avoir des points d'accès contrôlés rédigés selon des règles différentes. Je passe rapidement sur les autres, je ne peux pas tout dire. Donc, voilà, je les ai manifestés là. Où est-ce qu'on trouvera dans Remark ? Parce que c'est ça le but, de dire que comment Unimark traduit ça. Donc, il y a dans la partie, dans les parties liminaires hein, d'Unimark, les définitions, définitions, il y a tout un petit chapitre qui classe les points d'accès selon les fonctions dans la notice. Et on aura l'explication de qu'est-ce que c'est un point d'accès autorisé, qu'est-ce que c'est un point d'accès autorisé dans une langue ou écriture, un point d'accès associé, une variante de point d'accès, un point d'accès dans une autre écriture. Et dans le guide d'utilisation, on traite des relations entre les points d'accès, donc ce qu'on trouve ici. Et on explicitera qu'est-ce qu'on entend par données parallèles. Hein. Parce que jusqu'à présent, jusqu'à la deuxième édition du Unimark Autorité, on parle de données parallèles, enfin de vedettes parallèles, en explicitant lorsqu'on en parle dans les blocs de XX et tout, mais il n'y a pas d'un texte introduisant la notion de données parallèles ou la notion de données dans une autre écriture ou celle des règles différentes ou des points d'accès composites, etc. On prendra la peine dans l'Unimark 3e édition de faire des parties introductives, qu'est-ce que c'est et où est-ce que ça se traduit dans Unimark, parce que ça ne se traduit pas seulement dans les points d'accès autorisé, mais à travers d'autres informations relatives à la langue, l'écriture, etc., ou des règles. Si je prends les éléments composants du point d'accès, donc la racine du point d'accès et les éditions, hein, donc toujours dans les attributs du point d'accès contrôlé, eh bien on a la définition sur la racine du point d'accès, et on a un élément nouveau qui intervient dans toutes les zones 2XX et 4XX, on a chaque fois un petit paragraphe listant lesquelles sont les sous-zones qui appartiennent à la racine du point d'accès, lesquelles sont les sous-zones qui appartiennent aux additions, à savoir les qualificatifs. ce qui n'était pas le cas avant. Donc, vous voyez, on a un modèle conceptuel, eh bien, qui structure quelque part la pensée et la présentation des informations, et du coup, les informations deviennent plus claires, leur sémantique, leur vrai sens, finalement, dans le format Unimark. Je passe assez rapidement ça parce que il n'y a pas de vraies nouveautés. Là, c'est juste une mise en correspondance des attributs du point d'accès contrôlé, l'usage prévu, la langue, l'écriture, etc. Où est-ce que ça se retrouve dans Unimark? Vous pouvez le regarder vous-même. Idem pour tout ce qui est les relations dans FRAD entre les points d'accès. Donc on a dans le guide d'utilisation le paragraphe 8 qui traite des relations entre les points d'accès à travers les données parallèles et données dans une autre écriture qui se retrouveront après dans traduit dans les mécanismes utilisés par Unimark dans 100$A, 2, 2, 4 et 7 XX pour tout ce qui est le $7 de l'8 écriture et langue, j'y reviendrai, mais c'est pour ça que je préfère ne pas m'attarder. Pour ce qui est les relations entre les points d'accès contrôlés et les règles, vous vous souvenez que j'ai dit que FRAD définit les points d'accès comme construites selon des règles différentes. Donc les points d'accès et les règles ont une relation vraiment très très forte. Eh bien, dans les blocs 4XX et 5XX, le fameux $5, on a dans la position 0 une petite valeur N qui est nouvelle et qui gère la forme du nom selon des règles différentes. Et c'est là on indiquera les règles utilisées. Une relation entre les points d'accès de règles différentes. Le schéma, pour rappel, encore une fois, entité bibliographique connue par des noms identifiants qui servent la base pour la construction des points d'accès contrôlés, lesquels sont créés par les agences, sont gérés par les règles et ces règles sont appliquées par les agences. Sauf que, j'ai matérialisé légèrement les relations entre les entités bibliographiques, mais il ne faut pas oublier qu'il y a même les autres entités ont des relations entre elles. Les noms ont des relations entre eux. Les points d'accès contrôlés ont des relations entre elles, ce qu'on l'avait dit là, pour les points d'accès. Pourquoi je reviens sur ces relations? Parce que c'est une grande nouveauté du format Unimark qui reprend toutes ces relations entre les entités de FRAD, les étudie et essaie de les traduire. Donc, dans FRAD, les relations sont définies comme des relations entre les entités bibliographiques, donc entre les agents, donc personnes, collectivités, familles, ceux qui jouent des rôles précis vis-à-vis des ressources ou les autres entités, et les œuvres et l'expression. Donc il y a des entités des relations entre les entités bibliographiques et les noms. Quelle est la relation entre une personne et un de ces noms, par exemple, des relations entre les noms eux-mêmes, entre les noms et les points d'accès, entre les points d'accès et les règles. C'est FRAD qui les définit comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait Unimark? Le fameux $5, qui s'appelait avant, dans Unimark 2e édition, données codées relatives aux mentions de formes rejetées ou associées, et qui tout d'un coup s'appelle code de contrôle des relations. Vous voyez, quand je vous disais que comment vont se traduire les concepts de FRAD dans Unimark, c'est dans la sémantique même, le sens des éléments du format. Il s'appelle plus données relatives aux mentions de formes rejetées ou associées. Donc il y a une révision intégrale de ce $5 pour lever les ambiguïtés et les induits qui était déjà exprimé parfois, mais de façon maladroite et de façon implicite. Et pour expliciter mon rôle, lui donner sa vraie valeur de ce code de l'art 5, comme devant gérer les relations. De quelle manière ? Avant, on avait une position zéro, tout simplement, qui était, je ne me souviens plus, code de gestion des relations entre les entités, il me semble. Et bien maintenant, on en a fait trois. Il est code de relation des noms, pour exprimer les relations entre les noms des entités. Code de relation spécifique pour les œuvres. La position 2, vous voyez, une deuxième fois, on voit apparaître la notion de œuvre, mais dans ça, à part entière. Et code de relation spécifique pour les agents. Donc position 0, position 2, position 3. On va commencer par la position 2, pour respecter un peu la hiérarchie des entités dans FRBR, dont FRAD est quelque part le prolongement. Donc, code spécifique de relation pour les œuvres. Je ne fais que citer une marque là. Indique une relation spécifique entre les œuvres ou entre œuvre-expression et une œuvre-expression. Laquelle relation est enregistrée comme une relation entre un point d'accès associé pour le titre d'une œuvre-expression et le point d'accès autorisé pour le titre d'une autre œuvre-expression dans les zones de XX. Donc, il est utilisé uniquement dans les zones 5XX. Un peu plus concret, FRAD définit, si je prends que ce côté-là, définit des relations entre œuvre, expression, manifestation, item. De quel type ? Mais il les définit de façon générique. Relations de dérivation, de tout à partie, d'accompagnement, séquentiel, de partage de caractéristiques communes. Nous sommes dans le cadre d'un modèle plus ou moins théorique qui donne des grandes lignes, des catégories d'informations et des types de relations. Donc on y marque, on en a besoin de plus. Vous voyez par exemple, la relation définie de tout à partie en FRAD et ben donnera lieu dont Unimark a valeur D de la position 2, œuvre dans son ensemble, et valeur E, partie d'une œuvre plus large. Et ça va être pareil pour les autres. Dérivation, ça donnera lieu à trois valeurs dont Unimark, parce qu'on en a besoin. Mais on respecte quand même ces définitions génériques. Un exemple, eh bien, à la recherche du temps perdu, j'ai mis tout le point d'accès comme il faut avec les dollars 7 gestion d'écriture langue, etc. Dans la même notice, on aura un lien à travers un point d'accès associé 540, un autre titre du même auteur, et le lien entre Albertine disparue et à la recherche du temps perdu est exprimé dans le $5 valeur E qui dit partie d'une œuvre plus large. Ça va dans ce sens-là, la relation. Donc on gère cette relation. On passe maintenant à un autre type de relation, relation entre personnes, collectivités et familles. Et nous sommes dans FRAD. Comment il est défini FRAD ? La relation entre deux personnes, comme une relation de pseudonymie, eh bien on en utilise cette notion de persona en latin, parce que nous on l'avait traduit à un moment donné par identité d'emprunt. Mais je ne sais pas comment on va le Pardon ? Ou avatar, si vous voulez. Mais internationalement, ils ont préféré choisir ce terme persona parce que, eh bien, on peut se passer des traductions et ça permet une compréhension commune. Les relations filiales entre parents et enfants, Mais en relation collaborative, de type pseudonyme collectif, de personnes qui s'associent pour et que ici publiquement s'affichent comme une seule personne, la relation attribuée à la relation de fratrie, sœur-sœur ou frère-frère, pour les familles ou frères-sœurs, pour les familles, la relation généalogique, famille d'origine, d'ancêtres ou souche et famille descendante, la relation entre une personne et un groupe, que ce groupe soit une collectivité, un simple groupe ou une famille, donc relation d'affiliation à un groupe, et la relation entre une famille et collectivité, FRAD définit une famille comme pouvant être fondateur et possesseur d'une collectivité. Pour les collectivités, eh bien, on a la relation de subordination, la relation séquentielle, donc une collectivité change de nom, d'identité, d'activité, etc., devient une autre dans le temps, la relation de scission et la relation de fusion. Bon, grosso modo, les catégories de relations que FRAD définit pour les collectivités et les personnes et les familles. Comment on les retrouvera dans Unimark? Alors, il est à noter que pour tout ce qui est la relation entre personnes, collectivités, familles et œuvres aussi, FRAD prend note du fait que les relations, on ne va pas pouvoir les exprimer dans l'absolu et de façon complètement abstraite. Dans les données bibliographiques, on l'a dit qu'une personne, une collectivité, une œuvre, etc., est bien un nom. Et ce nom fait l'objet d'un point d'accès contrôlé. Donc c'est pour ça que même FRAD reconnaît que ces relations sont exprimées dans les données d'autorité habituellement comme des relations entre les noms autorisés, donc forme préférée du nom, pour chaque entité. Et puis, ils peuvent être explicités aussi par des données codées. Ben, on l'a vu, le fameux $5, c'est dans le $5 qu'on est en Unimark là. Les renvois à voir aussi, les notes d'information, les formules introductives, etc. Donc, dans Unimark à 3e édition, on retrouvera ces types de relations entre personnes, collectivités, familles, œuvres, aussi bien dans la position 0 du $5 qui exprime la relation entre les noms que dans la position 3 du $5 qui exprime la relation entre les agents. Et comment? Donc, le $5, position 3, il est défini dans Unimark A comme code spécifique de relation pour les agents. Il est dit qu'il indique une relation spécifique entre personnes, collectivités et familles qui est enregistrée comme une relation entre le point d'accès associé au nom et le point d'accès autorisé dans les zones de XX est utilisé uniquement dans les zones 5XX. Alors, on les a vus, les petits schémas, les relations généalogiques, frère-frère, sœur-frère, etc., parents-enfants, membres, etc. Ils sont définis au niveau plus ou moins générique. Dans les remarques, on va beaucoup plus en détail. Par exemple, la relation parent-enfant, eh bien, ce détail en valeur G, relation parent, valeur H, relation enfant. Ou bien la relation collectivité, la relation hiérarchique qui est définie comme une relation pour les collectivités, ce détail en valeur P, collectivité subordonnée, valeur Q, collectivité de niveau supérieur. Voilà, donc parce qu'on est dans l'applicatif, on a besoin vraiment des éléments de gestion, de détails. Exemple, je prends le cas des frères Grimm, donc on a Jacob et Wilhelm, donc dans les notices de chacun, on aura leur renvoi, donc la forme associée du frère, et on aura dans le $5, la position 3, on a une, deux, troisième position, c'est la valeur J, faut me croire sur parole, qui est la valeur frère 2 ou sœur 2, ou voilà. Et on l'aura dans les deux notices, n'est-ce pas? Mais c'est une valeur précise. Je reviens sur FRAD, la relation entre les noms. Hein. FRAD définit les relations entre un nom de personne et un autre nom de personne de type nom antérieur, nom postérieur. Il n'y a que des exemples, hein, parce que dans la vie bibliographique, pour ne pas dire la vie réelle, il y a bien plus d'autres types de relations, et Frad le dit bien, hein, il donne une liste indicative. Pour les noms de famille, Frad dans la relation de type forme linguistique alternative, parce que c'est une relation que entre chaînes de caractères, hein, pour appeler des familles. Pour les noms de collectivité, c'est nom développé versus acronyme, initial, abréviation. Pour un nom d'œuvre, c'est la relation non conventionnelle. Et puis, pour chacun de ces noms, il y a la relation forme linguistique alternative et autre variante du nom qui est valable. Donc, dans une marque A1, on a défini la position 0 du $5, qui est le code spécifique de relation pour les noms, qui indique une relation spécifique entre les formes du nom, d'une entité, les différentes formes du nom, qui est enregistrée comme une relation entre les points d'accès rejetés, ou les points d'accès associés, et le point d'accès autorisé en 4XX et en 5XX, et vice versa. Je reviens sur FRAD. Donc, j'avais la relation entre personne, famille, collectivité, que je les ai déjà listées, on les a vues, hein, séquentielles de pseudonymie, collaborative, hiérarchique, religieuse, etc. Et dans FRAD, les relations entre les noms, nom précédent, nom suivant, nom conventionnel, acronyme initial, abréviation, relation non développée, et puis j'ai quelque chose qui est un tout petit peu sur le côté, relations, règles différentes. Pourquoi je les ai mélangées? Parce qu'il fallait que je les mette, que je fasse la correspondance avec Unimark. Donc dans Unimark, tout ça se retrouve dans la position 0. Tout pour vous dire que ces modèles, c'est des constructions théoriques, mais dans la pratique, c'est beaucoup plus difficile à trouver les moyens d'expression, parce que d'un côté il faut faire avec les moyens qu'on a et avec les limites du format. Donc dans la position 0, voilà ce qu'on trouve comme valeur. Vous avez la liste totale des valeurs ici, hein, je vais pas, pardon, vous les connaissez bien, donc je vais juste dire. Très bien, parce qu'ils sont déjà dans le, ils sont déjà définis, mais avant c'était la position 0, hein, voilà. Et sauf que c'est le reflet d'une partie des relations entre personnes, familles et collectivités qui obligatoirement se reflètent à travers les noms, et ce qui est défini au niveau de FRAD expressément comme une relation entre les noms. Par exemple, quand on dit nom, relation nom précédent, eh ben, on l'a en Unimark nom précédent et nom précédent nom suivant, ou bien nom de mariage, nom avant de mariage. Alors, juste une petite remarque, c'est que ce qui est relation entre les noms, ça se trouve plutôt appliqué dans les ans 4XX, et ce qui est relation entre les entités elles-mêmes, qui elles font l'objet de notices d'autorité différentes, qu'on les lit à travers les zones 5XX, et bien ce sont du côté des relations entre les entités elles-mêmes. Hein. Alors, cette relation entre les points d'accès, relation règles différentes, qui est une nouvelle valeur qui se trouve dans cette position 0. Maintenant, les informations sur l'entité elle-même. On a parlé des points d'accès, mais l'entité elle-même, Il me reste combien de temps? J'ai largement dépassé déjà, je suppose. Alors, ça va pas être long, hein. Quelques nouveautés. Donc, la langue de l'entité, des éléments sur la biographie, l'histoire, les activités de l'entité, les lieux et les dates associés à l'entité. Alors là, la langue de l'entité, je ne vous parlerai pas du 101$ à la langue utilisée par l'entité qui est déjà présente dans l'Unimark édition 2. Je vous parlerai uniquement d'une nouvelle, un nouveau code de sous-zone, le $C, qui rend compte de la langue de l'expression. Donc pareil, notre fameux Ulysse en version croate, on aura non seulement dans le titre de dans le point d'accès autorisé de 130 version croate, mais on aura aussi dans le $101 la valeur de la langue qui est ce $C. Langue de l'expression. Donc, les Croates, ils ont estimé qu'on pouvait créer une notice d'autorité pour la version croate d'Odyssée. En ce qui concerne la biographie, l'histoire et les activités de l'entité, eh bien, on a dans la 340, on a deux codes de sous-zone, l'autre sur l'activité et affiliation ou adresse. Et demain, nous aurons spécifique nouvelle pour tout ce qui est les activités d'un imprimeur ou éditeur, mais peut-être Agnès, elle en parlera. Tout ça pour rendre compte de ce qui est défini dans FRAD comme des attributs des entités bibliographiques, par exemple biographie, histoire pour personne, famille, œuvre, domaine d'activité pour une personne, une famille, profession, occupation pour une personne, affiliation pour une personne et adresse pour une personne, une collectivité. Donc un petit exemple, pour un ARN, eh bien, on aura la zone 340 qui donnera les informations biographiques, donc le $A ici, comme ça avant, et un $B qui parlera de l'activité. Donc pour la personne, la profession et les occupations. Pratiquement un avant-dernier truc, les lieux et les dates associés à une entité. Là, c'est carrément une nouvelle zone dans Unimark 3e édition qui s'appelle lieux et dates associés à une entité. Donc, la première série des sous-zones concerne les lieux, pays, état, région, comté, ville, lieu de juridiction. Et la deuxième série des sous-zones, ça concerne les dates. Tout ça pour pouvoir rendre compte des éléments lieux et dates associés à différentes entités telles que définies dans FRAD. Là, je vous ai mis les attributs qui sont applicables à chacune de ces entités. Comment ça se retrouve? Eh bien, vous avez ce 640 qui est une zone structurée avec de nombreuses combinaisons savantes grâce à non seulement les codes de sous-zone pour les lieux et les dates, mais aussi toute une série de valeurs de l'indicateur 1 qui sont applicables en fonction de l'entité décrite dans la notice. Donc vous pouvez faire des tas de combinaisons, ce qui nous donne un exemple, par exemple, deux exemples ici. Vous avez un exemple pour une personne, pour une entité personne, avec un 640. Vous voyez indicateur valeur 1, valeur 2, valeur 4 ici, et un $F, un $A, un $F, un $I ici. Je vous ai mis l'interprétation en clair. Donc, c'est une zone structurée pouvant être exploitée après, qui indique qu'il est né en 29 février 1908. Il est décédé le 18 février 2001. Il a résidé à Rome, en Italie, de 1961 à 1978. Et pour un titre, enfin, pour une œuvre, on va dire, eh bien, on a la date de la première parution, indiquée ici avec cette valeur de l'indicateur 1 plus le $F. J'ai fini. Merci beaucoup de votre attention et de votre patience.